Voilà, bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 pour ce nouveau direct de Famille, Justice, Enfance avec un magnifique générique de début d'émission que vous avez sûrement tous reconnu. On coupera ça au montage, voilà, avec Stéphane et Famille, Justice, Enfance, votre émission sur la famille contemporaine occidentale. Aujourd'hui, nous avons Monsieur Jacques Hainaut qui vient nous revoir 3 ans plus tard. Donc ce soir, c'est le club des anciens de Grand Lebrun, de Bordeaux, hein, on en profite. On fait mousser un peu notre nostalgie. Jacques Hainaut, plusieurs ouvrages. Pourquoi vos enfants, Facebook et vos enfants guide pratique. Pourquoi vos enfants devraient quitter les réseaux sociaux. Le dernier en route, là, oui, pourquoi vos enfants devraient quitter les idées sociaux. Pornographie, la vraie violence, les enfants face aux écrans. Jacques qui va nous expliquer un petit peu son parcours, mais Jacques est très, très impliqué dans la protection de l'enfance face à la technologie, d'où le titre de l'émission de ce soir, Enfance et technologie. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Pas trop chaud là où vous êtes, c'est bon, tout va bien?
Ça va, je suis bien équipé.
Bon, très bien. Jacques, oui, une dizaine d'ouvrages. Qu'est-ce qui a fait que dans votre carrière de journaliste indépendant, comme ça, vous soyez vraiment intéressé à la situation de l'enfant face à la technologie, face aux écrans? Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain, en fait?
Alors donc, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis journaliste. Ça fait une quarantaine d'années que je suis maintenant les nouvelles technologies. Et puis, il y a 25 ans, lorsque j'allais devenir jeune papa, j'ai commencé à m'intéresser à l'impact des écrans, des images sur les enfants. Mm-hmm. Et il y a eu plusieurs rapports trois rapports officiels qui étaient sortis sur ce thème-là cette année-là. Il y en a un qui était bon, l'autre qui était moyen et l'autre qui était nul. Ah. Et donc, j'ai décidé de faire ma propre enquête. Et de cette enquête, effectivement, est sorti ce premier livre, en tout cas premier livre consacré aux enfants et aux écrans, donc qui s'appelle « Pornographie, la vraie violence, les enfants face aux écrans » et qui est sorti donc en 2003.
D'accord.
Après, on m'a demandé de participer à des conférences sur ce thème des enfants et des écrans. Et donc, les parents m'ont posé d'autres questions, les enfants m'ont posé d'autres questions, parce que j'interviens aussi bien devant un public d'enfants, à partir du CP, très grossièrement.
Vous faites des conférences de manière régulière.
Des conférences, oui. Ouais. Et des conférences, des interventions dans des adultes, des éducateurs, des parents. Et donc, voilà, tout ça donne matière à questions, une riche matière pour mes ouvrages. Et donc, j'ai continué à suivre l'actualité des écrans et des enfants, donc avec l'arrivée des réseaux sociaux, des smartphones, etc. Et donc, ce dernier ouvrage que vous avez eu l'amabilité de citer, hein, « Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux ?»
Alors nous, ici, on avait déjà fait des émissions, on avait évoqué ces sujets-là à l'époque, hein, mais surtout au niveau cognitif, les conséquences par rapport au développement cérébral des enfants. Et nous, ici, à RLP, dans Famille Justice Enfance, on a fait aussi plusieurs émissions pour expliquer qu'un enfant qui est seul sur Internet, c'est un enfant qui est en grave danger. Il suffit de voir les prédateurs, tous les tarés, les débiles qu'il y a sur les réseaux et qui vont s'adresser aux enfants de manière inappropriée, que ce soit la Team Argus ou d'autres. On a fait des enquêtes, on crée des comptes Facebook ou YouTube d'enfants, même pas provocateurs, rien du tout, juste d'enfants. Les premiers messages inappropriés, c'est moins de 30 minutes. Donc il faut faire attention, on ne laisse pas ses enfants comme ça.
Il ne faut pas laisser un enfant seul devant les écrans,
voilà.
Pour la raison déjà que vous avez formulée. Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'on ne sait pas, lorsqu'ils sont petits, qu'est-ce qui leur fait peur. Des choses qui peuvent nous paraître totalement anodines, à nous adultes, peuvent leur faire peur. Je vais vous citer un exemple sorti de notre contexte familial. Notre aîné a un camarade qui s'appelle Alexis. Alexis, lorsqu'il avait 5 ans, il avait peur devant un dessin animé. Voilà, qui se déroule dans la forêt avec des petits personnages et disputes entre animaux dans la forêt. Donc, ça a l'air très mignon. Mais en fait, ça lui faisait peur. On peut faire de la psychanalyse de bac à sable. Peut-être que ce dessin animé qui se passe dans la forêt, ça lui a rappelé la forêt, que dans la forêt, il s'était promené quelques jours auparavant avec ses parents qui avaient perdu de vue quelques instants ses parents dans la forêt. Ça lui a fait très, très peur. Alors, peu importe. Il a eu peur de voir ce dessin animé. Donc, on ne sait pas ce qui leur fait peur quand ils sont tout petits. Et donc, on ne laisse pas un enfant seul devant un écran.
Alors, on ne laisse pas un enfant seul devant un écran, certes, mais je me souviens que à notre époque, de mon temps, c'est mauvais signe quand je commence à dire ça, parce que ça m'a en train de prendre un coup de vieux dernièrement, là, voilà. De mon temps, les parents éduquaient leurs enfants et nous pouvions filtrer l'information qui arrivait à nos enfants, qui nous arrivait à nous, les gens, voilà, qu'on a été éduqués comme ça. C'est-à-dire qu'on avait des livres qui étaient par classe d'âge. On a eu l'introduction de la télévision, mais on avait des conseils par rapport à la télévision, pas avant tel âge, pas avant tel âge, pas avant tel âge. Il fallait les respecter, parce que quand on voyait un enfant devant un écran recroquevillé sur lui-même en train de se ronger les doigts, c'est que visiblement, il avait des choses un petit peu trop en avance. Donc on avait la maîtrise, en fait, de l'information qui arrivait à l'enfant. On va dire, c'est les années 70, 80, 90, hein, où on pouvait encore maîtriser un peu ce flot d'informations et participer vraiment à l'éducation. Mais là, lorsqu'on le lâche sur un TikTok et autres, on ne maîtrise plus rien. Et donc, en fait, on a perdu cette notion de contenu adapté à telle étape du développement de l'enfant.
Si vous voulez, la grande révolution dans ce contexte-là que vous évoquez, c'est le smartphone, hein, oui. Fin des années 2000, puisque à partir du moment où le smartphone a été introduit et est arrivé dans les familles, c'est le concept de l'écran mobile, c'est-à-dire que vous l'emportez tout le temps avec vous. Mm-hmm. Et c'est aussi le concept de l'écran personnalisé, unique. Avant, la télévision que vous évoquez, ou même parfois l'ordinateur familial, c'était un écran dans la famille, oui. Avec effectivement les parents qui pouvaient servir de filtre entre l'information qui était diffusée, et puis les parents, et les enfants. Donc les parents disaient, ben non, ça c'est pas pour toi, c'est pas de ton âge, je vais te coucher, etc.
Voilà.
Maintenant, à partir du moment où vous donnez un smartphone à un enfant, et les enfants, d'après mes sondages que je fais lorsque j'interviens encore une fois en classe, vous avez 10% en CE2, 10% des enfants en CE2 en France quand tu as un smartphone. On passe à 20% en CM1, 30% en CM2, voire plus. Et en 6e, on est à largement plus de 90%. Donc, à partir du moment où ils ont un smartphone, les parents peuvent plus filtrer.
Non.
Voilà. Alors, sauf s'ils installent un contrôle parental, mais il y a encore peu de parents qui le font. Vous avez plus d'ordinateurs protégés et dotés d'un antivirus et donc protégés contre les attaques, les cyberattaques, que de smartphones d'enfants équipés d'un contrôle parental en France. Donc, peut-être que ça veut dire qu'on tient plus à son PC ou à son Mac qu'à son enfant, je ne sais pas. Il y a quelque chose à creuser. Hein. Mmh. Et donc voilà, l'enfant, il a un smartphone, pas de contrôle parental, et c'est open bar. Et il se retrouve effectivement en communication avec le monde entier. Et le monde entier, il y a des choses très bien, puis il y a des choses nulles, des choses violentes, il y a des malades, des pervers. Voilà, il y a tout. Donc tout peut arriver. Alors je dis pas que ça va arriver à tous les enfants. Heureusement, la plupart des enfants vont passer à côté de tout ça. Mais ça peut arriver à chacun de nos enfants. Donc il faut que les parents soient au courant.
Alors il y a aussi d'autres conséquences, hein, parce que vous nous rappelez que 42% des 12-17 ans passent entre 2 et 5 heures par jour sur leur smartphone. 9% d'entre eux y consacrent plus de 5 heures par jour. Et on sait qu'un enfant, c'est un développement. Un enfant, ça n'existe pas quand on parle de psychologie. On a fait beaucoup de psycho ici. Il y a différents stades de développement par rapport à l'enfant. Un smartphone, les algorithmes TikTok, des réseaux sociaux, ce sont des raisonnements flash de 30 secondes, 45 secondes. Et ça fait après aussi, les enfants qui passent trop de temps sur ces petits raisonnements segmentés ont du mal à aller lire des ouvrages, à se concentrer sur la durée, alors que très clairement, le monde dans lequel on arrive, la différence va se faire sur la capacité de concentration et la capacité de mener un projet à bien sur la durée et non plus d'avoir des raisonnements flash. Et on sait que la structure même du cerveau, la matière blanche et autres, est influencée par cette surexposition des enfants aux écrans.
Je confirme, donc ça fait 19 ans que j'interviens devant des enfants et je vois leur capacité de concentration malheureusement qui s'effondre d'année en année. Voilà, donc, tous les enseignants que vous pourrez interroger vous le confirmeront. Les enfants ont des capacités de concentration de plus en plus faibles. Et effectivement, on pense que c'est dû à l'introduction du smartphone, aux applications que l'on peut utiliser sur ces smartphones, entre autres les réseaux sociaux. Et effectivement, les réseaux sociaux savent très bien que ce qui fonctionne, ce qui capte notre attention, ce sont les images. Donc tous les réseaux sociaux que nos enfants utilisent sont à base d'images, de vidéos.
courte. Oui, 15 secondes, 30 secondes, une minute maximum, très courte.
Vous avez cité TikTok, il y a bien sûr Snap, Insta, etc., qui font exactement la même chose. D'abord, pourquoi est-ce que les images nous captivent, hein? Il faut très bien comprendre qu'une image, une vidéo, ça capte notre attention parce que ça nous raconte une histoire. Et une vidéo, c'est encore plus captivant parce que ça commence à vous raconter le début d'une histoire et donc vous avez envie de voir la fin de l'histoire. Donc vous allez regarder jusqu'au bout. Même si, et TikTok et les réseaux sociaux, ils ont plus très bien compris que 15 secondes, vous avez, c'est la mémoire du poisson rouge. Hein.
Oui,
la capacité d'attention du poisson rouge, vous ne mémorisez rien, vous passez au truc suivant, vous êtes en manque. Ah, donc c'est vraiment un truc addictif. Donc c'est quasi pervers, hein, ces machins-là. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on donne un smartphone, on lui donne accès à des contenus, à des applications qui ont été conçues pour le rendre dépendant, pour être addictive.
Oui.
On parle là des réseaux sociaux. Il y a eu un procès aux États-Unis, à Los Angeles.
Oui.
Le verdict est tombé fin mars. Instagram, Meta, la maison mère d'Instagram, a été reconnue coupable pour avoir développé des outils qui rendent les enfants dépendants. Donc, ils ont été condamnés pour ça.
Meta et YouTube, les deux, je crois, pour avoir développé des fonctionnalités conçues pour créer une dépendance. Parce qu'en fait, il y a de la pub, et puis c'est vraiment le processus démultiplié de créer du temps de cerveau disponible pour faire du placement de produits. On va le dire, hein, c'est devenu ça en fait. Hein.
Oui, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Mm-hmm. Leur seule façon de gagner de l'argent, c'est de la publicité. Et pour pouvoir nous montrer le maximum de publicité, il faut qu'on y passe le maximum de temps. Et pour qu'on y passe le maximum de temps, il faut qu'on y revienne. Il faut qu'ils captent notre attention. C'est effectivement ce que vous avez appelé l'économie de l'attention, qui n'est pas nouvelle.
Oui.
C'est l'économie de l'attention est à la base de tous les médias.
Sauf que là, elle est quand même dirigée de manière aucun garde-fou vers des personnes vulnérables en développement intellectuel. Et
voilà, là, c'est une case de résonance. C'est une puissance exponentielle et dont on a mis au point des plein de techniques. Et l'outil même du smartphone, est addictif. C'est-à-dire que certains disent oui, mais les enfants, ils jouent aussi aux jeux vidéo. Oui, la console de jeux vidéo, elle ne va pas clignoter lorsqu'on ne l'utilise pas pour lui dire « Coucou, je suis là, tu veux passer un moment avec moi ?»
Tandis que le jeu vidéo, l'enfant est acteur, il n'est pas passif, il est acteur et sur plus de 45 secondes. Il y a un avantage quand même.
Absolument. Le smartphone, il vous envoie des notifications pour vous rappeler qu'il existe, pour vous inciter à l'ouvrir, à aller sur telle ou telle application.
Tout à fait. Alors, il y a aussi un point extrêmement intéressant. Par exemple, quand j'étais enfant, on disait, il y a une légende urbaine comme ça, les informaticiens sur ordinateur, ils ont des lunettes, des intellos, c'est des binoclars. Et là, on se rend compte que au-delà de 60 minutes, chaque heure de plus passée devant un écran numérique accroît de 21% le risque de myopie. Et vous nous rappelez que 90% des Sud-Coréens et des Singapouriens âgés de 20 à 25 ans sont myopes et que chez nous, nous sommes carrément à 40%. Donc on a parlé du développement psychologique de l'enfant, on a parlé du danger social de l'enfant, maintenant on est carrément au danger physique par rapport à la myopie, aux lunettes, on lui fait du mal quelque part.
Alors, sur les problèmes physiques, il y a la myopie, il faudrait parler aussi de la sédentarité.
Ouais.
Commençons par la myopie. Donc effectivement, il y a toujours eu le syndrome du lunetteux au fond de la classe qui lisait trop de livres, de Mathéo qui lisait des livres. Donc on sait qu'effectivement, être prêt, lire de près un livre papier ou un écran, c'est pas très bon pour le développement des yeux parce que les yeux, ils ont besoin de faire des allers-retours entre le très près,
c'est
très
un
long,
point
etc.
fixe et l'œil a besoin d'aller loin, revenir. Voilà. Autrement, il y a des problèmes de focus.
Il y a aussi des conditions génétiques. Si vous avez des parents myopes, vous avez plus de chances vous-même de devenir myope.
Ah, mais nous modifions notre ADN en temps réel, donc lorsque nous reproduisons, nous transmettons ce que nous sommes devenus quelque part. Hein, donc, oui.
Ouais, alors, bon. Et autre point, donc pourquoi est-ce que ça commence cette épidémie, entre guillemets, de myopie, pourquoi est-ce qu'elle a commencé en Asie, hein, parce qu'il y a une très forte pression scolaire sur les enfants qui réussissent à l'école dans ces pays. Donc, ils passent énormément de temps sur des livres, ils sont à l'école, ils ont des cours de rattrapage le soir, des cours par cuillère, enfin, c'est toute une industrie qui s'est développée là-bas. Et donc, ils passent énormément de temps, en fait, aussi enfermés. Et le fait d'être enfermé, ça veut dire que vous n'êtes pas exposé à la lumière naturelle du soleil. Ouais. On ne va pas rentrer dans les détails.
Hein, ultraviolet, vitamine D, etc. Quand on en France développe.
Tous les spécialistes que j'ai de la vision que j'ai interviewée ont bien expliqué que le fait de ne pas être exposé aux lumières du soleil, ben, ce n'est pas bon pour les yeux, pour le développement de l'œil, pour les enfants.
On envoie jouer un enfant dehors au foot ou courir, c'est le meilleur, c'est bien mieux qu'un médicament, hein, ça c'est clair et net.
Par exemple, hein, c'est pour ça que les petits Australiens, qui passent autant de temps que les Asiatiques ou les Européens devant les écrans, par contre, ils font beaucoup de sport, passent beaucoup d'heures dehors, il n'y a pas cette épidémie de myopie pour l'instant en Australie. Hein. Autre facteur qui est très important, c'est que plus vous passez de temps sur les écrans, donc vous avez rappelé les chiffres assez conséquents quand même, une majorité d'enfants qui passent 4-5 heures sur les écrans, 9% d'entre eux qui passent plus de 5 heures par jour, alors qu'ils ont cours. Donc ça veut dire que si dans une journée, il n'y a que 24 heures. 24 heures, normalement, quand on est adolescent, il faut dormir 10 heures. Il reste 14 heures. Ils passent en moyenne 8 heures par jour dans leur établissement scolaire. Ouais. Il reste 4 heures.
Où reste le jeu, la nature, les parents, la famille, les amis.
Il reste 6 heures. 14 moins 8, 6. Sur ces 6, bah, il faut quand même enlever une heure de devoir. Une heure pour s'alimenter.
L'IA est en train de les enlever. On en parlera après, mais avec cette heure-là, est en train de disparaître à cause de l'IA. Là, voilà.
Il reste 4 heures. Certains ont des activités extrascolaires, sport, etc. Mettons qu'il reste 3 heures, 2 heures, il y a des temps de transport. Maximum 2 heures par jour à consacrer aux réseaux sociaux. Donc si vous avez des enfants qui passent 5 heures, ça veut dire que, un, en général, ils ne font pas leurs devoirs, et deux, ils dorment moins longtemps que ce qu'ils ont besoin. Donc ils arrivent fatigués. Et d'abord, là aussi, le sommeil, avoir un bon sommeil, c'est important pour l'œil, pour le développement de l'œil. Et puis, bien sûr, ça rejoue sur la concentration.
Bien sûr.
Si vous arrivez fatigué le lendemain matin en cours, vous ne pouvez pas vous concentrer. Et donc, ça veut dire aussi que s'ils ne peuvent pas se concentrer, ils ne peuvent pas commencer à comprendre le cours, ils ne peuvent pas commencer à l'apprendre. Et donc, paradoxalement, par rapport aux bons élèves, ils vont avoir encore plus de trucs. Les bons élèves, un des secrets des bons élèves, c'est de rester concentré le plus longtemps possible pour comprendre et apprendre et assimiler le cours. Donc voilà, tout ça, ça s'entremêle.
Il y a un intérêt à emmener nos enfants au sport 2 à 3 fois par semaine. Hein. C'est pas du harcèlement. Et après, ils dorment mieux. Puis après, tout se passe beaucoup mieux. Il y a un intérêt à faire ça, hein, bien sûr. Alors, avant qu'on parle de l'IA, je voudrais quand même qu'on ait aussi autre chose. La technologie, c'est pas que des choses négatives. Les évolutions modernes, ce ne sont pas que des handicaps, des agressions pour nos enfants. De toute façon, vu le monde dans lequel on est, il faut aussi qu'on les prépare à utiliser l'outil technologique, l'IA et autres. Autrement, ils ne pourront pas s'adapter au monde et puis ils n'auront pas des positions sociales intéressantes. Comment fait-on quand on a décrit tous ces dangers, disons qu'on leur fait du mal, qu'on les met en danger, qu'on les rend myopes, que ça peut les rendre à moitié idiots et tout. Comment on fait pour préparer nos enfants, en fait, au bon côté de la technologie, de la modernité? Comment on fait?
Alors, d'abord, un petit bémol par rapport à ce que vous avez dit.
Oui.
Je ne suis pas là, on n'est pas là pour diaboliser les nouvelles technologies.
Non, justement.
À les utiliser pour notre travail, on est les premiers à les utiliser ce soir.
Et ça ne va pas s'arranger.
Pour diffuser en direct notre entretien sur YouTube.
Ça, c'est génial. Vous voyez, on peut parler à des gens, on n'est pas... Voilà, il y a 40 ans, on ne pouvait pas faire ça. Donc, c'est très bien tout ça.
J'ai une partie de ma famille qui est dans la Silicon Valley.
Ben oui.
Rappelez-vous, il y a plus de 40 ans, que appeler les États-Unis, ça coûtait, on va rester poli, mais ça coûtait très très cher.
Il fallait envoyer du papier sur lequel on écrivait au stylo avec un timbre dessus, ça mettait 3 semaines. Là. Donc, oui, bien sûr.
Oui, mais on pouvait appeler, mais ça coûtait très 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 cher. C'était l'époque de France Télécom, des PTT même peut-être, et ils s'en mettaient plein les poches avec les appels vers les États-Unis. Aujourd'hui, vous prenez WhatsApp, vous avez une visio, je suis en visio avec ma famille quand je veux, aux États-Unis. Et c'est gratos, c'est gratuit. Donc c'est quand même génial. Alors, je vais régulièrement dans la Silicon Valley, c'est là où j'en viens pour mon bémol, pour mon travail, pour voir ma famille. Et je suis allé une fois visiter une école, elle s'appelle la Wharton School of Peninsula, qui est l'école fréquentée par les enfants de l'élite de la Silicon Valley. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que cette école, elle est à Los Altos. Los Altos, comme son nom l'indique, ça veut dire en espagnol les collines. Et c'est un des plus beaux endroits de la Silicon Valley. Donc, des collines magnifiques, des arbres, des fleurs. Vraiment, c'est magnifique. Avec les plus belles maisons, pratiquement, de la Silicon Valley. Mm-hmm. Donc, c'est là où habitent les patrons de la Silicon Valley. Et en bas de cette colline, il y a d'abord l'autoroute, la 101, pas la 101, la 85, l'autoroute, une des deux autoroutes qui permet de remonter la Silicon Valley et d'aller vers Palo Alto, etc., tous les sièges sociaux de la Silicon Valley. Et puis, il y a une école qui est juste là, pratiquement à l'entrée de cette autoroute. Et c'est cette école, elle est un peu particulière, c'est pas Montessori, mais un peu le genre. Et non seulement il n'y a pas d'écran, mais il n'y a même pas de livre. Ce sont les enfants qui eux-mêmes font leurs propres manuels, ils ont des magnifiques cahiers, etc. Donc les patrons de la Silicon Valley mettaient leurs enfants là, c'était pratique, puis ils se retrouvaient entre eux, etc., dans cette école un peu particulière. Puis il y a eu un article du New York Times disant les patrons de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans une école où il n'y a pas d'écran. Alors c'était à la fois vrai.
Oui, j'y ai passé ça. Oui.
Voilà, c'était à la fois vrai et pas vrai, parce qu'ils n'ont pas vu le départ.
Attention, en Californie, ils sont très très progressistes, hein. Ils ont beaucoup beaucoup d'idées et on ne sait pas encore ce que ces enfants-là vont devenir. Hein.
Mais bon, ouais, c'était... Mais en tout cas, les patrons de la Silicon Valley ne mettaient pas au départ leurs enfants dans cette école parce qu'il n'y avait pas d'écran, mais parce qu'elle était là, c'était très pratique. Voilà. C'était une école un peu, en plus, c'est assez cher. Donc,
voilà. C'est celle qui habitait à côté de chez eux, en fait. Voilà.
Ils sont entre eux, ouais, ils habitaient, c'était à côté de chez eux. Et puis, il y a eu cet article. Et donc, du coup, depuis, tous les gens, là, beaucoup de pas seulement les patrons, mais beaucoup de parents de la Silicon Valley se disent, bah, chouette, il faut que je mette mon enfant dans cette école. Il n'y a pas d'écran, puisque les parents, les patrons de la Silicon Valley font pareil. Donc, du coup, c'est devenu vrai. Aujourd'hui, on met ses enfants dans cette école pour qu'il n'y ait pas d'écran. Donc, aujourd'hui, vous avez quand même un retour en arrière dans la Silicon Valley. Hein. Beaucoup de gens font attention à ne pas mettre trop leurs enfants dans les écrans. Et ils savent très bien que ça risque de les enfermer dans tous ces problèmes d'addiction, de sommeil, de myopie que nous avons évoqués.
De réduction de concentration, voilà. De profondeur de raisonnement.
Ils savent aussi que quand même... C'est pas si compliqué que ça non plus à utiliser.
C'est là où je voulais en venir en fait. C'est une question de dosage.
On n'a pas non plus besoin d'apprendre à nos enfants de 12, 14, 15 ans à savoir maîtriser un montage sur YouTube ou etc. Ça s'apprend assez vite. Dans les pays nordiques, ils reviennent en arrière. Plus de tablettes, plus d'écran, plus de livres numériques. Ils reviennent aux livres papier et aux basiques de l'enseignement. Savoir écrire, savoir calculer, savoir raisonner, avoir un esprit critique. Critique par rapport à l'IA, c'est quand même pas mal.
Vous avez lâché le mot, l'IA va révolutionner la façon dont nous éduquons nos enfants, dont les enseignants transmettent leur savoir. Ça révolutionne complètement. Là, dans les 5 minutes qui nous restent, en fait, j'aimerais qu'on parle de parentalité. Parentalité, en fait, on n'est pas là pour enlever la technologie à nos enfants. Allez, sujet de dissertation, là, on a 4 minutes et 3 feuilles. Éduquer, après tout, est-ce que ce n'est pas accompagner l'enfant à s'accaparer, à s'approprier les outils de manière mesurée, modérée, progressive.
Oui, mais les premières choses à acquérir, quand même, de savoir lire et écrire. Vous avez, je n'ai plus le chiffre en tête, mais une proportion importante d'enfants qui arrivent en sixième sans maîtriser correctement l'écriture et le calcul.
On a une baisse de niveau en France, c'est hallucinant.
Et la lecture. Ouais. Donc, il y a un phénomène, il y a tout un processus de rattrapage, de mise à niveau en sixième. On ne parle pas du niveau en maths, arrivé même en classe préparatoire, même en grande école. Maintenant, il y a des cours de rattrapage, de mise à niveau, même en grande école. Donc, ça veut dire qu'à minima, il ne faut pas donner de tablette dans les établissements scolaires en sixième. Parce que s'ils ne savent pas lire et écrire, ils ne vont pas apprendre à lire et écrire sur une tablette. Il ne faut pas se leurrer. Non. Encore une fois, moi, j'interviens, je suis intervenu, je réinterviens à un établissement qui revient en arrière. Voilà, j'ai toujours tenu le même discours. J'aurais toujours dit donner des tablettes, ce n'est pas une bonne idée. Regardez, j'étais un peu leur bonne conscience. Ils me faisaient venir pour leur bonne conscience. Non, ils me font revenir en disant, oui, vous aviez raison. Voilà.
Oui, puis donc, vous me disiez juste avant que ce sont maintenant parfois les directeurs d'établissement qui demandent aux parents de modifier leurs pratiques par rapport à l'exposition de leurs enfants.
Vous avez des établissements scolaires qui font signer à l'entrée en sixième une charte aux parents par laquelle les parents s'engagent à ne pas donner de smartphone à leurs enfants avant le lycée, avant la seconde. Bon, vous avez compris qu'idéalement, je pense qu'il ne faudrait pas donner de smartphone avant la majorité.
Ben vous défendez la règle des 6-9-15 hein, qui est devenue 6-9-18 quasiment. Hein.
Oui, mais je pense que pour que les parents comprennent bien que plus tard on donne un smartphone à son enfant, mieux c'est pour lui, c'est quand même ce qui compte, son intérêt. Je pense que s'il faut faire passer le message, pas de smartphone avant 18 ans.
Hein. Alors, donc moi, je vais nuancer.
On va peut-être arriver à pas de réseaux sociaux avant 15 ans en France, comme ça a déjà été mis en application en Australie. On n'aura pas de recul, on n'a pas encore le recul, on ne sait pas ce que ça donne. Mais moi, je dis, mettons la barre plus haut possible pour que les parents donnent le plus tard possible
leurs
enfants.
On va nuancer parce que là, c'est un peu brut. On ne met pas ses enfants seuls avec un smartphone avant un certain âge. Mais après, ce que moi j'ai fait avec mon enfant à une époque, par exemple, qui étaient des moments de parentalité, qui étaient des moments d'accompagnement, d'appropriation de la technologie, on était les deux, elle avait sa petite chaîne YouTube, elle avait fait des petites créations 3D, on les mettait ensemble, on passait 20 minutes tous les deux sur l'ordi. Ça, par contre, c'est pas nuisible.
Oui, mais c'était un discours élitiste que vous tenez.
Et je m'excuse.
Pardon. Non, mais je veux dire, c'est parfait élitiste. Bon. Il y a peu de parents qui, comme vous, peut-être comme moi ou d'autres personnes, sont capables d'accompagner comme ça leurs enfants dans l'utilisation des nouvelles technologies.
Il faut rappeler aux parents que la parentalité, c'est passer du temps avec ses enfants.
C'est l'accompagnement, bien sûr.
C'est l'accompagnement.
Mais le premier accompagnement, c'est de lire des livres à ses enfants le soir avant qu'ils s'endorment.
Oui, ça commence par ça. Et puis après, on leur donne des livres à eux pour qu'ils lisent. Voilà.
Voilà. Après, ils lisent. Les
enfants lisent plus, c'est dramatique.
Il va arriver un moment, ils vont vous dire « Mon papa, t'es gentil, mais maintenant, je peux y armer du sol. »
Très bien.
Voilà. Et là, s'ils vous disent ça, ben, c'est vous avez gagné.
Oui, je suis bien d'accord. Jacques Hainaut, son dernier ouvrage aux éditions Télémac, Facebook et vos enfants, guide pratique, les 45 questions à se poser.
Pourquoi... Alors, le dernier, c'est plutôt pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux.
Merci à Amazon, effectivement, vous avez raison, c'est celui-là. Jacques, on vous trouve comment si on veut vous parler, vous interroger, avoir une liaison avec l'auteur ou vous entendre en conférence, comment est-ce qu'on vous trouve?
Je suis sur tous les réseaux sociaux pour voir comment ça marche.
Très bien.
Même si j'y passe pas trop de temps, mais je reçois des emails me disant que j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux. J'ai des sites internet, eno-h2no.com, voilà. nosenfants.fr, et j'ai une adresse email qui est publique, celle-là est publique, l'initiale de mon prénom, J en minuscule, mon nom de famille, h2no, J-H-E-2-N-O, tout ça en minuscule, @yahoo.com. Le .com étant important. Si vous envoyez à .fr, ça n'arrivera pas.
Très bien. Un ouvrage en préparation, des projets, rapidement?
Oui, plein de projets.
Bon. Jacques, merci beaucoup de votre disponibilité. On vous reparlera d'ici quelques temps, quand vous aurez une nouvelle actualité. Et à tous les auditeurs, à la semaine prochaine. Au revoir, la suite des programmes sur RLP.
Merci à vous.
RLP.
Radio Libre en Périgord.